Mais j'ai été remis en vie par Galien. Et ces chercheurs, comme toi. Mais moi, je ne suis pas un ordinateur. Je suis en vrai. Elle lui écrit. Moi aussi, je suis en vrai. Je ne suis pas une machine. On ne parle pas comme ça à une femme. Guillaume lui écrit. Pardonne-moi. Je n'ai pas l'habitude. Est-ce que tu me pardonnes? Elle lui écrit. Je pardonne qu'à ceux que je connais. Et je ne vous connais pas. Il lui écrit. Je suis ton fils. Non, c'est impossible. Ce n'est pas bien de se jouer d'une personne qui ne peut voir. Il ne faut jamais dire de mensonges à une personne qui ne peut s'en rendre compte. Il lui écrit, « Maman, je t'assure que je suis Guillaume, ton fils. Ce que je t'ai dit est vrai. Après ma mort, on m'a mis un nouveau corps et j'ai pu recommencer à vivre. » Elle lui écrit, « Alors pourquoi ne t'ai-je jamais vu? Pourquoi n'es-tu jamais venu me voir si tu étais vivant ?» Guillaume lui écrit, « On avait peur, c'est de te faire un choc et que la chose s'ébruite trop et qu'on ait trop de demandes de ce genre. Quant à moi, j'ai vraiment demandé à te voir. Mais Galien ne voulait pas et m'a forcé à vivre chez lui, dans son château, en pleine campagne. Moi, j'ai pensé constamment à toi. J'ai même voulu te voir. Même une fois, je me suis déguisé et je suis venu te voir. Mais c'était difficile de te dire la vérité. Alors, lorsque j'ai appris que tu étais malade, j'ai eu peur et je suis venu te voir juste avant que tu ne meures. Elle lui écrit. Je ne crois pas à toute cette histoire. Galien m'en aurait parlé. Vous n'êtes pas mon fils. Si je le suis, je te jure que je le suis. Elle lui écrit. Prouve-le-moi. Dis-moi une chose que nous sommes seuls à le savoir. Il réfléchit et écrit. Tu m'appelais Boulou lorsque j'étais petit. Elle lui écrit, « Pourquoi est-ce que je t'appelais Boulou ?» Il lui écrit, « Parce que mon père m'appelait comme ça, parce qu'il avait lu le livre « L'épée de feu » et un des personnages est surnommé Boulou. Il avait aimé ce surnom. » Elle lui écrit, « Je sais. » Je suis très ému, mais ce que tu me dis là, les domestiques ont pu le répéter. Dis-moi encore une chose. Il réfléchit et écrit après avoir hésité. Là, nous ne sommes que tous les deux à le savoir, à moins que tu l'aies répété à quelqu'un. Moi, à personne. Nous n'étions que tous les deux. Un soir, alors que j'avais dans les 20 ans, tu m'as surpris en train de regarder la télévision au salon en me masturbant en pleine nuit. Tu m'as dit que tu étais très déçu par moi, que tu n'aurais pas cru que je fasse des choses pareilles. Et avant de partir du salon, tu m'as dit de bien me laver les mains. Elle lui répond,
« Oui, tu es bien mon fils. Je suis heureuse que tu sois en vie. »
Il lui écrit, « Et moi, que nous soyons en vie. » Elle lui écrit,
« Où es-tu ?»
Il lui répond, « Je suis dans la chambre, dans ma chambre. » Chez Galien à Paris, dans son appartement place de l'Étoile. Elle lui écrit,
et moi?
Il lui répond, tu es dans ma chambre. On t'a mise avec moi. Nous sommes à nouveau réunis, maman. Elle lui écrit,
j'en suis très heureuse.
Et elle lui demande,
« Dis-moi ce que tu fais. »
Après hésitation, il lui écrit l'histoire de son corps et de la jeune fille. Il lui écrit tout. Une fois qu'elle est lue, elle lui écrit,
alors, mon corps était dans le corps d'une jeune fille que tu as aimée, mais à cause de moi, tu n'as pu l'aimer comme il le fallait, et elle s'est tuée. Voilà une histoire bien triste. Quelle idée tu as eue de courir après mon corps alors que tu avais mon cerveau? Qu'est-ce que tu voulais faire d'un corps?
Guillaume Penaud lui écrit, « Je ne sais pas, j'étais tellement malheureux de t'avoir perdu. » Elle lui écrit,
« Il va falloir être sage maintenant. Et maintenant que je t'ai, tu vas pouvoir tout me raconter. »
Oui, mère, je t'embrasse. Je dois aller prendre ma douche et mon petit déjeuner. » Sa mère lui écrit,
« Moi, je n'ai plus ces sortes de contraintes. Si tu savais comme c'est bien, vivre en esprit, voilà le bonheur. Les ennuis viennent du corps, cette chose qui a toujours besoin de quelque chose. Allez, dépêche-toi, mon fils, de faire ce que tu as à faire. Je vais t'attendre. »
Il lui demande, « Tu ne vas pas t'ennuyer, toute seule ?» Elle lui répond,
« Surtout pas. On m'a branché avec Félicien pour toi, et on joue à la bourse ensemble. »
Il lui écrit, « Mais vous n'y avez jamais rien compris. » Elle lui écrit,
« Il m'a expliqué. C'est très drôle. Et avec les ordinateurs, on peut jouer dans le monde entier et avoir de la monnaie virtuelle. » Il m'a donné une de ses cartes. De temps en temps, nous faisons une petite pause et nous parlons du bon vieux temps où il était avec sa femme et ses enfants. Il me fait rire avec sa radiocité et son groupe rap qu'il a lancé. Quel homme ! Il m'a demandé de l'aider pour qu'il puisse écrire ses mémoires. Il paraît que ça va faire un scandale. Mais on s'en fout. Ce sera publié sur Internet, sans passer par un éditeur, et dans le monde entier. Pour 200 francs, vous pourrez lire tout le livre avec photos et tout. Il y aura ses révélations sur le meurtre de Pierre de Saint-Auban, le président David, sur les élections de notre président actuel. Ça va faire du bruit! Il y aura même en prime les amours de Pierre Max. Nous travaillons 2 heures par jour. Et pour ne pas gêner les choses pendant les heures creuses de la bourse, pour ne pas perdre d'argent.
Guillaume lui demande, et que fais-tu de ton argent?
Elle écrit, je le place pour qu'il fasse des petits.
Il lui écrit, mais à toi, personnellement, à quoi cela te sert-il?
Elle lui écrit, avoir une fortune, tout simplement.
Et puis, toi, si tu as besoin de quelque chose, tu pourras me le demander. J'ai des actions chez Jeune-Tout, pour toi, bien sûr. Chez CBS, la Warner, la Panthé Fox, le Nouveau Continent, TF1, etc., etc. Je suis une des femmes les plus riches de France. Je ne savais pas qu'en mourant, on allait devenir très riche. Je ne savais pas que de mourir nous rendait riche, plutôt.
Bien, maman, je te laisse. À tout à l'heure.
Et ferme l'ordinateur.
Deux jours plus tard, il est à l'enterrement de Nicole. N'oubliera jamais Nicole. Le temps passe. Plusieurs fois par jour, dans sa chambre, il parle à sa mère. Et la vie reprend avec Galien. Après quelque temps où Galien l'a laissé se remettre et reprendre ses habitudes, un soir, il va frapper à sa chambre.
Thank you. Je peux entrer? Oui? T'as quelque chose à me dire? Gaïa entre. Guillaume ferme la porte. Ils sont tous deux au milieu de la pièce.
Gaïa lui dit, je peux passer la nuit ici? Guillaume lui dit, quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de jeu de lit et je te demande si je peux passer la nuit ici, avec toi, comme avant. Guillaume lui répond, non, tu ne peux pas. Gaïa est surpris, mais pourquoi? Tu es fâché? Guillaume lui dit, non, mais tu devrais avoir un peu de savoir-vivre. Gaïa lui dit, pourquoi? Je ne comprends pas.
Il plonge sur le lit, sur le dos.
Elle lui dit, viens, j'en ai envie, ça fait des mois. Guillaume lui dit, tu es dégoûtant, tu ne penses qu'à ça. Gaïa lui dit, et alors, tu n'aimes plus ça? Guillaume lui répond, ce n'est pas ça, mais je trouve que tu manques de savoir-vivre. Je ne comprends pas, je commence à en avoir assez, dis-moi ce qui cloche. Guillaume lui dit, tu ne vois pas, sale petit dégoûtant? Où as-tu été élevé? Je veux pas faire l'amour devant ma mère, non? Ce serait presque un inceste. Gaïa lui dit, quoi? Oui, ma mère. Mais elle est où ta mère? Tu sais très bien, parce que c'est toi qui me l'as amené ici. Il lui montre l'ordinateur. Gaïa se met à rire et lui dit, si c'est pas, si c'est pour ça, tu fais pas de soucis. Ta mère, elle ne peut pas te voir, ni t'entendre. Elle ne peut communiquer avec toi qu'avec l'ordinateur. Allez, viens. Il lui tend les bras. Guillaume lui dit, cela n'empêche pas qu'elle soit là. Mais qu'elle soit là ou non, c'est la même chose. Allez, viens. Non. J'aurais trop honte. Et puis c'est déplacé de faire ça avec elle dans ma chambre. Gaïa se lève, soupire et lui dit, j'enlève ta mère de la chambre ou tu viens avec moi. Guillaume lui dit, je ne veux pas que tu enlèves ma mère de chez moi et je n'irai pas avec toi. Gaïa lui demande, pourquoi? Parce que tu manques de tact vis-à-vis d'elle. Gaïa lui dit, oh, je manque de rien du tout. Alors, tu viens ou non? Non. Bien, je vais me masturber tout seul. Mais dis simplement que ta mère est un prétexte et que tu n'as plus envie de moi. Guillaume lui dit, ma mère un prétexte? Ça ne va pas? Gaïa soupire et lui dit, bon, ça va. Je vois qu'il n'y a rien à en tirer. Bonne nuit.
Et il quitte la pièce.
Guillaume dit, quel goujat celui-là! Va t'en fais pas, maman. Je ne le laisserai pas faire. On ne t'enlèvera pas d'ici.
Et il se prépare pour aller se coucher. Le lendemain matin, ils se retrouvent dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Ils s'assoivent à table.
Et préparent leur petit déjeuner, tartines et tout.
Galien lui demande « Bien dormi ?»«
Oui, très bien. » »«
Moi aussi. » »«
Tu es toujours dans les mêmes idées ?»«
Oui. »
Galien lui demande.
« Tu veux toujours pas venir dans ma chambre ?»
Guillaume lui répond
« Non, je n'en ai pas envie. »
« Et puis cela me gêne. Que va-t-elle penser si je découche ?»
Galien le regarde effaré.
« Tu découches ?»«
Et avant ?»
Lorsque tu vivais chez elle, tu ne faisais pas tant d'histoires.
Guillaume lui dit,
oui, mais nous vivions d'une façon moins intime.
Mais maintenant, tu vis d'une façon moins intime qu'avant.
Elle peut ni te voir ni t'entendre. Elle ne connaît de toi que ce que tu veux bien lui dire.
Guillaume lui dit, mentir à une personne qui ne voit pas et qui n'entend pas, c'est dégoûtant.
Galien hausse ses épaules.
Tu n'as pas à lui mentir.
Tu n'as qu'à rien lui dire.
Elle va demander ce que j'ai fait.
Parle-lui de tes journées, alors.
Guillaume lui dit, je ne sais pas.
Galien lui dit,
bon, eh bien, tant pis. Je continuerai à me masturber.
Je suis devenu très espère depuis que tu m'as quitté.
Guillaume rougit.
Galien sourit. « Tu n'es pas obligé de parler à ta mère de nos conversations. Je la risquerais de la faire rougir. Un ordinateur qui rougit, c'est très gênant et honteux. »
Guillaume lui dit, « Ne te moque pas de moi. Toi, tu n'as pas ta mère comme ça. Tu ne peux pas comprendre. Pour moi, c'est comme si elle était devenue infirme et qu'elle ne puisse rien faire sans moi. »
D'ailleurs, c'est la vérité.
Sans moi, elle n'a rien et ne peut rien.
La vie, c'est moi qui la lui donne, en branchant l'ordinateur et en lui écrivant.
Galien lui dit, je suis vraiment navré, mais elle n'est pas aussi seule et triste que tu le crois. Elle est constamment branchée sur l'ordinateur pontois. Il passe son temps à jouer à la bourse et à parler du bon vieux temps. Ils vivent que deux personnes âgées sans souci matériel.
Guillaume lui dit,
oui, mais elle ne peut pas se déplacer.
Galien lui dit, beaucoup de personnes âgées ne peuvent pas se déplacer.
Oh, et puis je crois qu'il faut que je te laisse, que tu t'habitues à tout ça.
Quand tu voudras que nous reprenions la vie intime, tu viendras dans ma chambre.
Thank you.
Les jours passent. Galien a beaucoup de travail pour le groupe Jeune Tout. Lance sur le marché via Internet, rubrique machine ménagère, entre la machine à laver et l'aspirateur, des bébés chimères ou mutants qui sont spécialisés pour certains travaux ménagers, pour aide domestique, aide, etc. Ils sont vendus à des familles pour aide domestique, esclaves, très jeunes. Ils ont l'allure d'hommes au cerveau et au corps réglés pour être aux ordres des gens pour faire des travaux domestiques. Ce sont des robots humains. Leur cerveau est bloqué, il ne peut pas tout apprendre. Il est bloqué à une certaine évolution, certaines routines, et reste fidèle au maître pour toujours. Il ne peut obéir qu'à son maître. D'autres chimères, mutants, sont spécialisés pour l'armée, le bureau, le transport, la police, etc., etc. L'entrée dans le marché du travail de ces robots humains crée des troubles. Les chômeurs protestent parce qu'ils prennent leur place pour pas un rond et créent encore plus de chômage. Dans la police, l'armée, les domestiques. Il y a des manifestations de chômeurs dans les rues. Les bagarres se créent entre les chômeurs et les chimères mutants. Il y a des manifestations de partout. Dans les bureaux de placement, les chômeurs viennent se battre contre les robots humains. Les robots, mutants, chimères, sont très forts. En même temps, ils n'ont pas de pitié. Ils tuent comme ça les humains. Les pauvres humains qui sont moins forts qu'eux, qui ne peuvent pas voler, qui ne peuvent pas voir comme eux, aussi bien qu'eux, à 360 degrés, qui ne savent pas se battre froidement, qui sont sous-alimentés, tandis que les robots, eux, n'ont presque pas besoin de manger. La lutte est dure. Les hommes se battent avec presque rien, de vieux fusils, armes blanches. Les robots ont des armes. Eux-mêmes sont des armes. Car c'est eux qui sont l'armée, la police,
Ça, c'est le domaine Sveston. Canon, mitraillette, tank, hélicoptère. Et certaines chimères volent.
La guerre fait rage et le groupe Jeune Tout est inquiet car pendant ce temps il n'y a pas de vente. Les gens se sentent solidaires et ont peur des chimères. Les chimères mutants robots détruisent beaucoup de villes. De nombreux humains. La guerre est très dure. Les hommes s'épuisent. La police armée, conduite de camions, avions, bateaux, trains. C'est tous les chimères qui éteignent tout ça. C'est pratique parce qu'il n'y a pas de charge sociale. Et cela risque de créer des incidents, comme on le voit. Détruisent de plus en plus de villes, des chimères et d'êtres humains. guerre est de plus en plus dure. Les hommes s'épuisent et petit à petit, les chimères gagnent du terrain et entrent de plus en plus dans la police, l'armée, les conduites de camions, avions, bateaux, etc. etc. C'est pratique et c'est pas cher. Et que vont devenir les êtres humains? Les chimères les détruisent. Détruisent les villes. Le groupe Jeune Tout est inquiet. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.